الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ce dimanche, nous étions le 29 du mois de Rajab, le mois de Rajab qui est un des quatre mois sacrés, et nous étions, c'était l'anniversaire d'un événement important qui est cité dans le Coran. Cet événement, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le voyage nocturne, Al-Isra, et l'ascension vers les cieux. C'est-à-dire notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne quitte la Mecque pour Médine, il a été invité par son Seigneur pour faire un voyage terrestre et un voyage céleste. Le voyage terrestre, c'était de la Mecque à Jérusalem. Et de Jérusalem, il est monté au ciel pour visiter le royaume des cieux, pour visiter la demeure du paradis et de l'enfer, et pour entrer en contact directement avec son Seigneur et revenir avec des cadeaux inestimables. Voilà en résumé ce qui s'est passé le 29 du mois de Rajab, 6 mois ou 1 an, peu importe, avant l'Hégire. Pourquoi est-ce que il y a eu ce détour ? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam n'est pas monté direct au ciel ? Pourquoi est-ce qu'il a fait un détour vers Jérusalem, vers la Terre Sainte ? C'est très très symbolique. C'est pour nous apprendre à nous aujourd'hui, musulmans et musulmans de tout temps, que nous musulmans, nous avons 3 lieux saints. Nous avons la Mecque, et au nord de la Mecque, nous avons Médine, et au nord de Médine, nous avons Jérusalem, la Palestine, la Terre Sainte. Et ces trois sont reliés par une vérité que aucun musulman ne peut discuter. Vous entendez ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il y a 3 lieux saints dignes d'être visités. La Mecque, où une prière vaut 100 000, Médine, où une prière vaut 1 000, et Jérusalem, où une prière vaut 500. Tous les autres endroits sur terre n'ont aucune dimension sainte. Vous entendez ? Ça n'existe pas. Une autre mosquée sur terre qui aurait une valeur religieuse. Hein, je vais aller rendre visite, je ne sais pas, à telle mosquée parce qu'il y a la tombe dedans d'un saint. Ça, c'est contraire à l'orthodoxie musulmane. Très bien. Pourquoi alors est-ce qu'il va à Jérusalem ? Pour nous rappeler la sainteté de cette terre. Pourquoi est-elle sainte, la terre sainte ? Parce que c'est là où il y a eu la plus grande concentration de prophètes tout au long de l'histoire. D'ailleurs, si vous lisez le Coran, vous verrez que les 25 prophètes qui sont cités dans le Coran sont en majorité originaires de cet espace géographique. Et c'est là où ils ont exercé, et c'est là où ils ont fini leur jour, et c'est là où ils ont été enterrés. Secondo, il faut que l'on comprenne que quand le prophète alayhi salam est arrivé à Jérusalem, il a accompli une prière surérogatoire. En tant qu'imam, et derrière lui, il avait des centaines et des centaines de prophètes. Au minimum 314 messagers. Et vous savez tous que les prophètes sont dans leur tombe vivants en état de prière, que leur corps ne se désintègre pas. Et Dieu a rassemblé tous ces prophètes cette nuit-là. Ils étaient assis dans la mosquée, le temple de Jérusalem. Et lorsque le prophète est arrivé, alayhi salam, ils lui ont ordonné de diriger la prière. Pourquoi ? Parce qu'il est l'imam des prophètes, le sceau des prophètes, le plus grand des prophètes, mais aussi parce que lui ont remis la responsabilité de quoi ? De la protection de cette terre sainte. D'un air de dire, on n'est plus là, nos adeptes ont trahi notre message, tu es le dernier des prophètes qui est dans la lignée de la religion de Dieu. Ainsi, nous te remettons les clés de ce troisième lieu saint, parce que tu es toi et ta communauté les seuls dignes d'en prendre soin, parce que vous êtes dans l'orthodoxie de tous les prophètes. Et tous les prophètes ont appelé à quoi ? À croire en Dieu et à se soumettre à Dieu. Et en arabe, ça se dit islam. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dirigé la prière et il a accepté cette lourde tâche, responsabilité, de quoi ? De prendre soin du troisième lieu saint. Et ça, il l'a enseigné à ses compagnons. Et ils l'ont tout de suite compris. La preuve, qu'est-ce qu'a fait Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, juste après la mort du prophète, alayhi salam? Il a envoyé les musulmans pour libérer la terre sainte de la domination des Romains qui colonisaient cette région. À la mort d'Abu Bakr, Omar prend le relais et c'est Omar qui va libérer cette terre entièrement et surtout Jérusalem qui était colonisée. Et Omar va y aller personnellement, à pied. Vous entendez ? Il va partir de Jérusalem, de Médine jusqu'à Jérusalem, à pied, avec son serviteur. Et l'archevêque de Jérusalem va lui remettre les clés de la ville. Et Omar va signer avec eux un pacte qui permet et autorise aux chrétiens de rester à Jérusalem, de garder leur lieu saint, et qu'ils avaient des droits et des devoirs comme le reste des citoyens. Et d'ailleurs, ces chrétiens ont demandé à Omar, écoutez bien, d'interdire aux Hébreux de s'installer à Jérusalem. Jérusalem, la terre sainte, donc entre dans le giron de l'islam. Les prophètes sont contents dans leur tombe, mais cela ne va pas durer l'éternité, puisque une invasion à nouveau de Romains, d'Européens, va voir le jour. C'est ce qu'on appelle les croisades, en 1099. Et à nouveau la terre sainte est colonisée par des barbares, par des hordes de monstres qui n'ont qu'un objectif, c'est l'exploitation, la domination et l'extermination. Et ces croisades vont durer 2 siècles, 200 ans, vous entendez ? 200 ans. Un bras de fer entre les autochtones, les indigènes et les colons dominateurs. Et il faut attendre quoi ? Il faut attendre le réveil avec des gens comme Ahmad Din Zanki, son fils Nourdin Mahmoud al-Shahid et ensuite Salah ad-Din, le grand Saladin, qui va réussir à libérer Jérusalem. Et Jérusalem va retomber à nouveau entre leurs mains. Il faut attendre le règne des Mamelouks d'Égypte pour purifier et libérer cette terre des colons. Voilà que la joie ne va pas durer non plus très longtemps, puisque 400 ans plus tard, à nouveau, les Romains, les Occidentaux reviennent à l'attaque. Subhanallah, vous voyez pas comment cette terre est convoitée ? C'est incroyable quand même, hein ? C'est impressionnant. Alors que les musulmans, qui en sont les propriétaires légitimes, n'ont jamais empêché les autres d'y habiter, d'y vivre et de jouir des bienfaits de cette terre. Bref, 400 ans plus tard, l'Occident revient à l'attaque. Mais cette fois, ils utilisent un peuple qu'on appelle les Hébreux, pour coloniser à nouveau la Palestine et la Terre Sainte. Et vous savez tous que ce sont les Anglais qui colonisaient cette région, qui, en 1917, avec l'ordre de Balfour, font la promesse de la création d'un État sioniste, raciste. Et vous savez le reste de l'histoire, 1948, l'ONU, qui est censée faire respecter la justice sur Terre, va déclarer légal et légitime un État qui s'est construit sur le dos de milliers, de centaines, de millions de personnes. Et encore aujourd'hui, on voit les résultats de cette injustice, puisque le peuple palestinien, depuis 100 ans, souffre le martyre à cause de cette colonisation, qui est avant tout une colonisation économique. Vous savez, les croisés, quand ils ne croyaient pas qu'ils sont partis pour le Christ, pour l'amour du Christ, ils sont partis parce qu'il y avait du miel, il y avait des fruits et il y avait des belles femmes, comme ils disaient. Ils sont partis parce que ce sont des colons. Hein? Les Romains ont toujours eu comme projet d'exploiter, de coloniser les autres. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Orient et même l'Afrique sont des terres fertiles et des terres riches. Et généralement, ils utilisent la religion. Mais en vérité, quand vous grattez bien, c'est plus une guerre de colonisation économique et géopolitique. Quoi qu'il en soit, si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Jérusalem, et si les prophètes lui ont remis cette responsabilité, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous est demandé, vous entendez, de manière impérative, d'être les protecteurs de la Terre Sainte et de défendre la Terre Sainte. Imaginez-vous si demain on se réveille et on apprend que Médine a été colonisée et envahie et que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été détruite. Comment est-ce que vous allez réagir ? Imaginez-vous demain vous réveillez ou le surlendemain et vous apprenez que la Mecque est envahie. Ouais. L'US Navy, les GIs sont entrés à la Mecque. Ouais. Comment vous réagissez ? Automatiquement, ça va déclencher chez vous une colère. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que c'est votre terre sainte. Et pourquoi pour la Palestine, cool, normal, ça ne nous empêche pas de dormir ? Pourquoi est-ce que les musulmans ne sont pas conscients de la sacralité de cette terre ? C'est bizarre, vous ne trouvez pas ? Moi, je vais le dire pourquoi. Parce qu'ils ont subi un bourrage de crâne, un lavage de cerveau. Eh oui. Un, ils n'ont pas la science et la connaissance, connaissent pas l'histoire. Deux, ils connaissent très mal leur religion. Regardez le verset du Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-haram ila al-masjidi al-aqsa. Regardez, Dieu cite la mosquée sainte de la Mecque, la mosquée sainte de quoi ? De Jérusalem. Hein, on connaît mal notre religion. Et troisièmement, les musulmans ont une épée de Damoclès. Attention, si jamais tu as le malheur de parler de la question palestinienne, de l'État d'Israël, tu vas être taxé d'antisémite, c'est ça ? Donc, t'es mort. T'es mort, t'es foutu. Politiquement, économiquement, intellectuellement, et pourquoi pas physiquement. Et tout ça, ça s'appelle du terrorisme intellectuel. Vous entendez ? Nous ne sommes pas antisémites parce qu'on ne peut pas être anti-soi-même, puisque nous sommes des sémites, non ? Et deuxièmement, on ne peut pas être injuste envers quelqu'un, parce que Dieu nous interdit l'injustice. Nous sommes assoiffés de justice. Et vous savez ce qu'on veut en Palestine ? On veut la justice. On veut que les résolutions de l'ONU soient appliquées à 100%. On ne veut pas deux poids, deux mesures. On veut que les peuples soient respectés. Mais malheureusement, tous ces principes, quand il s'agit des musulmans, sont bafoués. Et vous voyez ce que subissent les peuples musulmans partout sur terre. Mais c'est normal, parce que c'est la loi de la jungle, vous entendez ? Le faible se fait manger par le plus fort. On n'a que ce que l'on mérite. Si vous voulez vous faire respecter, soyez fort. Soyez fort intellectuellement, soyez fort économiquement, soyez fort politiquement, soyez fort spirituellement, et vous verrez que l'autre vous respectera. Parce que il va vous craindre car vous êtes fort. Si vous restez faible, vous allez vous faire dominer dans tous les domaines. Et vous êtes sur la sellette, c'est-à-dire le maillon faible. Et le maillon faible, c'est le premier qu'on vire. C'est celui qu'il faut éliminer. Donc, Al-Isra wa al-Mi'raj. Ouvrez bien vos oreilles. C'est une leçon pour nous musulmans. La Terre Sainte doit rester sacrée et sainte pour nous jusque la fin des temps. Et nous réclamons la justice. Concrètement, ça donne quoi? Vous allez étudier un peu plus l'histoire. Ce que je vous ai fait, c'est un petit résumé de rien du tout. Deuxièmement, vous allez, Allah yebarak fikoum, au moins 5 fois par jour, dans les 5 prières obligatoires, dans votre sujoud, faire une invocation pour nos frères opprimés partout sur terre et en Palestine en particulier. Obligatoirement. C'est de la solidarité spirituelle. Et troisièmement, commencez à faire des économies maintenant pour la collecte du Ramadan, pour les orphelins en Palestine, pour les veuves en Palestine, pour les hôpitaux en Palestine, pour les écoles en Palestine, pour les puits en Palestine, parce que c'est un devoir, vous entendez, que de soutenir ceux qui combattent pour rester en vie et pour défendre notre lieu saint. Et au cas où vous ne sauriez pas, nos ancêtres, puisque nous sommes originaires du Maghreb, n'est-ce pas, hein, nos parents sont marocains, algériens, tunisiens, mauritaniens, libyens, ben sachez que nos ancêtres, à l'époque où il n'y avait pas toutes ces frontières, mais il y avait un grand Maghreb islamique, les gens étaient soudés, c'était des frères, c'était des musulmans. Eh ben, sachez qu'à cette époque-là, nos ancêtres avaient pris conscience de la valeur et de l'importance de la Terre Sainte. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des bataillons de soldats de Mujahideen pour aller rejoindre l'armée de Salah ad-Din. Et Salah ad-Din avait énormément de respect pour cette armée maghrébine. Vous entendez? Et d'ailleurs, il leur a octroyé tout un pan de Jérusalem. Et encore aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, il y a un quartier qui s'appelle le quartier des Maghrébins. Il existe encore aujourd'hui. Le quartier des Maghrébins, il existe. Il ne reste plus beaucoup du quartier des Maghrébins, car il est grignoté en permanence par les colons. Le quartier des Maghrébins, vous entendez? Et toutefois qu'un martyr tombait, Salah ad-Din prenait en charge sa famille au Maghreb. Vous entendez? Au Maghreb, il prenait en charge sa famille. Ouais. Et la plupart de ces Maghrébins sont restés en Palestine. Ils ne sont pas retournés dans leur terre natale. Ils se sont sédentarisés. Ils se sont mariés avec des musulmanes autochtones. Et de grands savants ont vu le jour dans cette région du monde. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur terre? Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leurs proches? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ce sacrifice? Ils sont partis, ils ont fait 4000, 5000 kilomètres avec pour objectif de mourir au champ de bataille. Comme ça, gratuitement. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ce n'étaient pas des mercenaires. Ça, ils ne sont pas partis pour s'enrichir et gagner de l'argent. Ils sont partis pour répondre à un appel au secours. Jérusalem s'est exprimé. Et vous savez ce qu'a dit la mosquée Al-Aqsa, qui est citée dans le Coran? La mosquée Al-Aqsa a dit: ohé musulmans, réveillez-vous. Comment vous faites pour dormir la conscience tranquille, alors que moi, votre troisième lieu saint, je suis bafoué tous les jours. Par qui? Par des colons. Comment vous faites? Vous lisez le Coran, vous entendez le verset, et vous restez inconscient, insouciant. Vous réagissez quand il y en a un qui marque un but du milieu du terrain. Vous êtes plein de joie, plein d'euphorie. Quand une équipe gagne, vous pleurez. Vous tombez même en dépression quand une équipe perd. Non, vous allez jusqu'à vous battre et à mourir, martyr. Pas pour Dieu, hein, pour le diable. quand une équipe perd ou gagne. Vrai ou faux? Regardez à quoi sont arrivés les musulmans. À s'entretuer. Ouais. À cause de quoi? À cause de deux équipes de foot. Alors que nos ancêtres maghrébins sont partis mourir pour libérer leurs frères dans la religion. Alors Allah ybarak fikoum, ouais. Au lieu d'acheter un maillot, ouais, numéro 10, à 50 euros, ouais, une paire de baskets Euro 2012 à 125 euros, c'est ce que vous faites. Vous faites le jihad contre votre nefs, vous mettez cet argent de côté et vous attendez le mois de juillet, août, et on fera la collecte pour la Palestine. Comme ça, inshallah, nous allons suivre là les pas de nos ancêtres de manière intelligente et de manière civilisée. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم فك صراح مسجد الأقصى اللهم فك صراح إخواننا المسجونين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان اللهم عز الإسلام بنا اللهم عزنا بالإسلام اللهم انصرنا على من عدانا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم انصرنا على من عدانا اللهم احفظ أولادنا وارحم والدينا اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم اشف مرضاهم اللهم اغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ثبت قلوبنا على الدين اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين والحمد لله رب العالمين